C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Retour sur les affrontements entre groupes de migrants hier à Calais. 5 d'entre eux touchés par balles. Le ministre de l'Intérieur sur place dénonce le rôle des passeurs et des bandes. Il annonce l'envoi de 2 compagnies de CRS en renfort. Reportage d'Antoine Sabac dans un instant. Précision de Fiona Mogadam. Très vive protestation, toujours syndicale et politique à gauche, après l'annonce hier d'un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires et aussi le recours plus important à la contractualisation, dossier suivi par Anne-Laure Chouin. Après la Tunisie, Emmanuel Macron est depuis ce matin à Dakar, visite de 2 jours au Sénégal, déplacement suivi pour nous par Claude Guibal, tandis que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson entame au Mexique une tournée d'une semaine en Amérique latine dont nous parlera Valérie Crova. Enfin, ce rapport choc de l'IGAS sur les perturbateurs endocriniens, le document pointe surtout l'inefficacité des pouvoirs publics. Compte rendu du rapport avec Véronique Rebérotte, l'invité de la séquence interview, Vincent Jauvert, journaliste à l'Obs, pour son livre « Les intouchables d'État », publié aux éditions Robert Laffont dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jasbert.
Au lendemain du sommet mondial de Davos, retour sur la crise des inégalités avec notre invitée, l'économiste Esther Duflo. Elle est par ailleurs membre du nouveau conseil de l'éducation, conseil scientifique de l'éducation nationale voulu par Jean-Michel Blanquer. On lui demandera donc ce qu'une économiste peut sur cette question des inégalités scolaires, que peut-elle apporter ?
Et la question se pose encore ce matin de savoir ce qui s'est passé hier à Calais. Plusieurs rixes qui éclatent dans l'après-midi dans plusieurs endroits de la ville entre migrants afghans et africains, notamment les érythréens. Bilan donc très lourd, 22 blessés. Il y a 5 migrants qui ont été touchés par balles, dont 4 sont grièvement atteints. L'un d'eux ayant reçu une balle d'ailleurs dans la nuque. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place dans la nuit pour dénoncer, je cite, des passeurs et des bandes. Situation extrêmement grave, a-t-il dit à l'issue d'une réunion ce matin avec la sous-préfecture. Jamais on n'avait vu ce degré de violence dans la ville, a encore dit Gérard Collomb, qui annonce donc l'envoi de 2 compagnies de CRS en renfort. Situation qui ne peut plus durer, déclare de son côté la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard. Le reportage sur place ce matin d'Antoine Sabag.
La première annonce est un classique de toute visite de ministre de l'Intérieur à Calais. Gérard Collomb envoie en urgence 2 compagnies de CRS, soit environ 150 hommes. Et même si cela ne va pas régler la situation des migrants, ces renforts rassurent la maire Natacha Bouchard, qui craint de nouveaux affrontements aujourd'hui.
On a encore vécu hier un traumatisme, alors que ça fait maintenant près d'un an qu'on essaie de se reconstruire une image économiquement. Il ne faut pas que la population se sente en difficulté. Voilà pourquoi aussi les renforts sont arrivés et plusieurs dispositifs de fermeté vont être mis en place.
Et là, il s'agit d'un changement dans la distribution des repas aux migrants. Aujourd'hui, ce sont les associations qui s'en chargent. Les migrants s'y retrouvent par centaines. D'ici 15 jours, l'État s'occupera de ces distributions, mais sous forme mobile, pour éviter, selon les mots de Gérard Collomb, les points de fixation.
Nous le ferons en dehors le plus possible de Calais, de ces zones industrielles, de manière à ce qu'il y ait un certain retrait par rapport à la ville. Moi, j'étais hier à la Verrotière, on voit bien qu'on est au milieu des entreprises. Tout cela n'est pas bon pour l'économie de la ville.
Selon les associations, l'État cherche en fait à disperser les migrants dans le Calaisis et à rendre encore plus difficiles leurs conditions de vie.
Oui, Gérard Collomb donc qui confirme que les pouvoirs publics vont prendre en charge cette distribution des repas aux migrants dans des lieux mobiles, dit-il, éloignés de la ville et des zones industrielles pour éviter de créer des points de fixation. Les rixes seraient donc débutés au moment de la distribution de repas, en présence de passeurs armés. Comment tout ça s'articule, c'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on sait des faits, Fiona Mogadam, la manière dont ils sont déroulés et aussi dont ils ont commencé?
Mais tout a commencé vers 14h30 hier au niveau de l'hôpital de Calais. Un point de distribution de repas n'est pas très loin. Et c'est à ce moment-là qu'une première rixe a éclaté, explique la préfecture, entre des Afghans et des Érythréens. C'est là que des coups de feu ont été tirés. Les affrontements se poursuivent dans l'après-midi à quelques kilomètres, toujours entre migrants afghans et Érythréens. Et puis en fin de journée, environ une centaine d'Érythréens arrivent rue des Verrotières, avec apparemment une envie d'en découdre, puisque munis de barres de fer, alors que des Afghans entre 30 et 50 assistaient eux à une distribution de repas. Alors pourquoi ces affrontements entre ces deux nationalités? Elles sont régulières, disent les autorités. été. La distribution de repas est toujours un moment sensible, explique la préfecture, où tout peut partir très vite pour un rien. Il y a parfois des bousculades, d'où les dispositifs de sécurité. Pour François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants à Calais, est présent hier. Ce sont les passeurs qui sont à l'origine de ces affrontements.
Il serait faux de parler d'affrontements entre communautés ou interethniques. En fait, il s'agit d'un groupe de gens de la Corne de l'Afrique qui ont voulu se défendre, on va dire d'une façon un peu catastrophique, des dommages qu'ils ont subis de la part des passeurs afghans, qui veulent garder, empêcher en fait des Érythréens et des Éthiopiens, qui sont les plus nombreux, d'être présents sur le lieu en l'occurrence, qui était un lieu près de l'hôpital. Il y a cette violence exercée par les passeurs pour contrôler en fait leur trafic. La rue des Verrotières est l'endroit où il y a le plus de monde et où les choses sont habituellement les plus pacifiques, ça se passe très bien.
Et les distributions de nourriture reprennent aujourd'hui. La police judiciaire et la police frontières sont-elles chargées de l'enquête sur les affrontements d'hier ?
Fiona Mogada, merci. Dans l'actualité encore ce matin, nouveau drame en Méditerranée. 90 migrants morts noyés après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. C'est ce que rapporte l'Organisation internationale pour les migrations. La majeure partie d'entre eux était d'origine pakistanaise. Très vive protestation syndicale et politique encore ce matin à gauche après l'annonce hier d'un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires et le recours plus important aussi à la contractualisation. Le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, Olivier Faure, estime que le gouvernement cherche en fait à déguiser ce qui est un amaigrissement de la fonction publique et en réalité la disparition progressive de certaines de ses missions. La députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, déclare elle que la relance de notre société passe par la capacité à développer les biens communs, à retrouver donc du commun dans ce qu'on produit. C'est une provocation, affirme de son côté le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner, selon qui on ne peut pas gérer le service public comme une entreprise. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Antoine.
Petit florilège donc de ses réactions après les protestations syndicales, accusations politiques. Le gouvernement parlait de briser un tabou. Il semble que sur ce point, il ait partiellement réussi.
Pas de totem, pas de tabou, avait effectivement précisé Édouard Philippe au lancement du comité interministériel chargé de proposer ces pistes pour la réforme de l'État, dont acte. Les propositions énoncées hier n'ont surpris qu'à moitié les syndicats, même si elles les ont mis très en colère. De fait, l'inspiration de cette réforme de l'État gravite un palier que n'avaient pas gravi les deux précédentes, RGPP d'abord, puis MAP. Outre son objectif budgétaire, diminuer le nombre de fonctionnaires et faire des économies à l'État, inviter ainsi les fonctionnaires à partir et annoncer que la contractualisation dans le secteur public va se généraliser, c'est, selon FO, notamment aligner le statut de la fonction publique sur celui du privé en mettant de côté les principes rattachés à ce statut, intégrité, neutralité, laïcité notamment. Le Premier ministre s'en est défendu, il a redit hier qu'il n'était pas question de supprimer le statut de la fonction publique, mais il estime que le statut actuel, trop rigide, ne permet pas l'efficacité, que la fonction publique a besoin d'agilité, de souplesse comme toutes les entreprises. Il propose donc un nouveau contrat social, ce sont ses mots, qui inclurait en outre, une refonte des instances représentatives du personnel, ce que les syndicats de la fonction publique attendaient de voir venir depuis les ordonnances travail, plus de rémunération au mérite également, plus d'évaluation. Un discours sur l'efficacité qui ne convainc pas les syndicats, sauf la CFDT qui attend de voir. Et de fait, la négociation notamment de ce plan de départ volontaire dans la fonction publique risque d'être ardue. À qui va-t-on principalement demander de partir ? Aux fonctionnaires dont les missions seront supprimées ou privatisées ? Sous quelles conditions ? Après leur avoir fait ou non d'autres propositions, va-t-on leur proposer de partir ou les inciter à partir ? Auront-ils le droit au chômage ? A priori, oui. Autant de questions qui vont être négociées dans les mois à venir. Les syndicats, eux, se retrouvent en intersyndical le 6 février.
Anne-Laure Chouin, un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info sur la perception par l'opinion de la politique gouvernementale concernant notamment ces questions sociales. Près de 9 Français sur 10 déclarent soutenir les mouvements de contestations en cours dans les prisons, les hôpitaux ou les EHPAD. Dans les personnels protestent contre un manque de moyens et d'effectifs. Les personnes interrogées estiment par ailleurs que les ouvriers, les employés du privé ainsi que les retraités, les inactifs sont les grands perdants de la politique actuelle, tandis qu'à leurs yeux, les chefs d'entreprise, les cadres du privé sont les seuls grands gagnants. On salue l'invité de la séquence interview, notre confrère de l'Obs, Vincent Jauvert. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Les Intouchables d'État, sous-titré Bienvenue en Macronie. Bon, Emmanuel Macron, on verra ce que recouvre ce livre plus précisément, mais enfin, La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si Emmanuel Macron a des chances de pouvoir sortir de cette image qui, manifestement, après cette enquête pour France Info, semble lui coller à la peau, cette image de président des riches, d'avoir une politique qui favoriserait spécialement les plus favorisés.
Ça va être très difficile parce que les Français savent que non seulement lui-même vient du privé et a fait des allers-retours vers le privé et qu'il servait les riches. Ce n'est pas être gauchiste de dire ça, mais c'est un fait. Quand on est avocat d'affaires, on sert les gens les plus riches en France. Mais c'est le cas aussi de son Premier ministre, Édouard Philippe, qui, on le sait pas trop, a été lui aussi avocat d'affaires. C'est le cas du porte-parole du gouvernement, qui était patron des relations publiques d'un grand groupe, donc il servait les riches aussi. C'est le cas du secrétaire général de l'Élysée, qui était directeur financier d'une grande compagnie maritime qui appartenait à des riches italiens, etc. etc. Donc, ils auront du mal, je pense, à se dégager de cette image-là.
Et cependant, bon, on ne peut pas non plus leur faire le procès de vouloir servir les riches pour servir les riches. Il y a un projet économique qui consiste à dire, on redynamise, on redonne à ceux qui sont les plus producteurs d'emplois et de richesses la possibilité d'en faire davantage pour le profit de tous.
Ah, c'est le fameux débat sur la théorie du ruissellement. Est-ce que cette théorie est valable ou pas? Je suis bien incapable de le dire. Mais en tout cas, une fois encore, ce tropisme du privé semble être la marque quand même de fabrique d'Emmanuel Macron et de son équipe, et pas de n'importe quel privé. Le privé des riches.
Merci beaucoup Vincent Jaubert. Donc on vous retrouve pour votre livre tout à l'heure à la fin de cette édition, Les Intouchables d'État, chez Robert Laffont. Après la Tunisie, Emmanuel Macron est depuis ce matin à Dakar, visite de 2 jours au Sénégal, consacrée surtout à l'aide internationale, à l'éducation ainsi qu'à la sécurité régionale. C'est un déplacement suivi pour nous par Claude Guibal qui vient de nous envoyer sa correspondance.
Oui, et nous sommes plus précisément à Ambelair, dans la banlieue de Dakar. Et ce collège que visite Emmanuel Macron est flambant neuf. Les peintures sont à peine sèches. On a surélevé les sols, on a ajouté des étages. Il faut dire qu'ici, Antoine, il y a quelques mois, eh bien, les classes étaient régulièrement inondées et accueillaient en moyenne 100 élèves par classe. Alors avec les travaux, ce nombre d'élèves va diminuer de moitié, 50 enfants par enseignant. Et c'est à ce genre d'informations que l'on mesure les défis de l'éducation en Afrique, avec la densification de la scolarisation, se pose en fait la question de la qualité et de la formation. Comment en effet créer les filières des emplois de demain? Cela veut dire pouvoir se projeter dans le futur d'une Afrique qui va sauter d'une économie agricole en passant au-dessus de la case industrialisation. On ne sait pas si elle deviendra le continent du tertiaire ou alors est-ce qu'elle sera l'usine du monde. Et à chacun de ces scénarios, eh bien, le partenariat mondial pour l'éducation cherche à répondre avec une stratégie adaptée qui puisse permettre en fait aux jeunes Africains de trouver sur place les conditions de leur futur plutôt que la migration. Et puis se pose un temps la question de la scolarisation des filles, c'est une priorité plusieurs fois affichée par Emmanuel Macron. 70% de la baisse de la natalité est directement liée au degré de scolarisation des jeunes filles, une clé pour les enjeux démographiques.
Claude Guibal, donc, qui suit pour nous le voyage du chef de l'État à Dakar. 2 hélicoptères d'une école de l'armée de terre s'écrasent dans des circonstances encore inconnues ce matin dans le Var, une 50aine de kilomètres de Saint-Tropez. Le bilan est de 5 morts. Emmanuel Macron exprime une grande émotion, un profond respect pour les 5 officiers morts dans ce crash alors qu'ils s'entraînaient, affirme le communiqué de l'Élysée, afin de se préparer à leur future mission. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, entame au Mexique une tournée d'une semaine en Amérique latine qui va le conduire ensuite en Argentine, au Pérou, en Colombie et en Jamaïque. Le secrétaire d'État avait peu avant son départ donné dans un discours à Austin, au Texas, sa vision d'une Amérique latine libre, disait-il, et prospère par contraste avec le Venezuela, corrompu, disait-il, et hostile, le Venezuela de Nicolas Maduro. D'ailleurs, il évoque même l'hypothèse d'une intervention armée, de l'intervention de l'armée afin d'évincer le président Maduro. Sans donner davantage de précisions, Valérie Crova, comment se présente cette visite?
Alors, tout d'abord, rien ne permet d'affirmer que l'armée pourrait intervenir contre le président du Venezuela. En revanche, l'un des objectifs de la tournée de Rex Tillerson, c'est de constituer un front uni face au Venezuela, devenu la bête noire des États-Unis. Il aimerait que les responsables du continent sud-américain se montrent beaucoup plus fermes à l'égard de Nicolas Maduro. Au Mexique, le chef de la diplomatie américaine est en terrain miné. Il doit désamorcer plusieurs dossiers explosifs qui ont ombragé les relations entre les États-Unis et son voisin. En premier lieu, le mur que Donald Trump a promis de faire construire à la frontière pour lutter contre l'immigration illégale. Le président mexicain devrait réaffirmer son refus de payer pour ce mur. Aux propos radicaux de Trump, Rex Tillerson oppose un discours plus souple, notamment en ce qui concerne l'accord de libre-échange nord-américain, qualifié de désastre par Donald Trump. Tillerson est plus mesuré. Il a notamment insisté sur l'importance de l'ANENA pour l'économie américaine, tout en expliquant qu'il fallait le moderniser. Autre sujet qui doivent être abordés avec le président Peña Nieto, dont le mandat se termine, la violence à travers les cartel de la drogue qui gangrène le Mexique, ces organisations qui sèment la mort et la destruction, a dit Tillerson, de quoi trouver un écho favorable dans un pays confronté au narcotrafic où près de 19 000 meurtres ont été commis en 2017, l'année la plus violente depuis 20 ans.
Merci beaucoup Valérie Crova. On termine avec ce rapport choc de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, sur les perturbateurs endocriniens, parce que Le Monde a pu consulter l'un des premiers textes officiels qui décrivent les problèmes posés par ces substances. Substances qui, on le sait, interfèrent avec le système hormonal des êtres vivants. Document qui va être publié tout à l'heure et qui pointe, Véronique Rebérotte, surtout l'inefficacité des pouvoirs publics.
Alors le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales semble n'avoir en tout cas aucun doute sur deux points. D'abord les perturbateurs endocriniens et leurs chimies qui ont envahi nos vies, notre alimentation, les pesticides, les solvants, les plastiques en tout genre sont mauvais pour notre santé. Baisse de la qualité du sperme, anomalie du développement des organes ou de la fonction de reproduction, abaissement de l'âge de la puberté, lit-on dans le rapport. Le rôle des perturbateurs endocriniens est aussi suspecté dans la survenue de certains cancers hormonodépendants. Malgré cela, l'IGAS n'a aucun doute non plus sur ce point. Mais malgré ces effets, on va dire, négatifs sur notre santé, les pouvoirs publics et l'Union européenne, tout particulièrement chargés de réglementer le risque chimique, n'agissent pas en conséquence. Pointé pêle-mêle, le tarissement des financements des recherches, le manque d'études sur les impacts pour l'environnement, l'absence de politique de réduction des expositions pour les populations et surtout le différentiel entre la vitesse des connaissances scientifiques et la capacité des règlements européens et nationaux à évoluer, à adapter la législation sur ce type de sujet émergent. L'IGAS enjoint le gouvernement français de peser au niveau communautaire pour faire évaluer la réglementation, de balayer aussi devant sa porte, en portant sa stratégie nationale de lutte contre les perturbateurs endocriniens bien au-delà des simples ministères de la santé et de l'écologie. Il en va de la crédibilité de l'action de l'État, conclut l'Inspection générale des affaires sociales.
Merci Véronique Rebérotte. 12h48 sur France Culture, retour vers l'invité de la séquence interview, Vincent Jauvert, journaliste à l'Obs, pour son livre, donc Les Intouchables d'État aux éditions Robert Laffont, livre que vous avez lu pour nous, Camille Magnard.
Bonjour Vincent Jauvert.
Bonjour.
Votre livre apporte une connaissance qui est assez nouvelle, hein, il faut bien le dire, sur cette caste des très hauts fonctionnaires de ces grands corps de l'État sortis de l'ENA, qui occupent les plus hautes fonctions de l'administration et qui multiplient les allers-retours entre public et privé. On en apprend plus grâce à votre enquête sur des parcours personnels qui incarnent ce phénomène, par des révélations aussi sur les salaires vertigineux qui sont pratiqués, sur les conflits d'intérêts aussi qui se multiplient. Mais tout ça, cette notion de noblesse d'État, ça remonte au moins à Pierre Bourdieu en 1989. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en la matière avec l'arrivée au pouvoir de cette Macronie à laquelle vous faites référence dans le sous-titre de votre livre?
Eh bien, vous venez de le dire, en particulier les allers et retours. Jamais dans l'histoire de la République, en tout cas de la Ve République, autant de personnalités importantes, que ce soit au sommet de l'État ou juste en dessous, ont fait autant d'allers-retours entre le public et le privé. Et évidemment, ça pose des questions d'ordre déontologique, d'ordre éthique, que l'Assemblée nationale, d'ailleurs, dont elle va commencer à débattre bientôt.
Plus précisément, parce qu'il faut savoir en quoi ça pose fondamentalement un problème, selon vous.
Bien, lorsque on est haut fonctionnaire et que l'on devient directeur d'affaires publiques d'un grand groupe privé, on vous embauche parce que vous avez un réseau dans l'État, notamment issu de votre grand corps, que vous pouvez contacter et pour lequel vous pouvez faire du lobbying. Deuxième exemple, vous vous souvenez de cette affaire de la taxe des 3% sur les dividendes qui a échoué cette année, qui a coûté 9 milliards d'euros à l'État. Qui a déposé un recours au Conseil constitutionnel qui a abouti à cette annulation? C'est un avocat fiscaliste. Et d'où venait cet avocat fiscaliste? De Bercy. Et donc, un certain nombre de hauts fonctionnaires utilisent leur connaissance des faiblesses de l'État pour gagner de l'argent lorsqu'ils passent dans le privé. Et c'est ça qui pose problème.
Et en gardant la possibilité de revenir dans la fonction publique.
Absolument.
Ensuite, selon les jeux de liens aussi qu'ils ont entre eux et qui leur permettent de s'échanger des postes. Je voudrais qu'on parle d'un exemple un peu précis dans l'entourage très proche d'Emmanuel Macron. Il y a Benjamin Griveaux qui est actuellement porte-parole du gouvernement. Vous expliquez-vous qu'il y a justement un exemple là d'aller-retour entre des fonctions qu'il avait eues auparavant à Bercy et un passage par une société foncière où il a eu des intérêts très précis à défendre pour cette société.
Oui, ce n'est pas n'importe quelle société foncière, c'est la plus grande société foncière commerciale d'Europe qui possède la quasi-totalité des centres commerciaux autour de Paris, par exemple, Unibail, et qui dispose d'une niche fiscale, c'est-à-dire qu'elle ne paye pas d'impôt sur d'impôt sur les bénéfices comme l'ensemble des sociétés de ce genre. Il y a une logique à ça, il y a une raison, mais enfin, ils ont toujours peur que Bercy, quelqu'un à Bercy, décide de s'en prendre à cette niche fiscale. Et donc, ils embauchent des directeurs d'affaires publiques, toujours de très haut niveau, bien plus que d'habitude, très bien payés, uniquement ou quasiment uniquement pour s'assurer que personne à Bercy va s'en prendre à cette niche fiscale.
Donc, c'est donc des gens qui sont formés par les plus hautes écoles françaises et qui jouent contre finalement l'État en utilisant tout ce qu'ils ont pu engranger de carnets d'adresses et de compétences dans le public pour en
faire profiter au privé. Ça paraît l'évidence, encore une fois, que des gens qui ont participé au démembrement de l'État profitent souvent personnellement de ce démembrement.
Tout ça s'intègre aussi à une logique de complexification de la chose publique, de la réglementation et qui pousse les entreprises privées à avoir de plus en plus recours à ces consultants de luxe, entre guillemets, qui ont une connaissance intime à la fois des rouages et des personnalités, puisque les services rendus sont importants entre les différentes personnalités qui sont connues à l'ENA par exemple.
Oui, l'État est devenu d'un État acteur dans l'économie, surtout maintenant État régulateur avec la multiplication des agences de régulation, des hautes autorités, qui sont d'ailleurs tenues pour la plupart par des hauts fonctionnaires. Et donc les grandes entreprises ont besoin des mêmes hauts fonctionnaires, cette fois dans le privé, pour discuter avec leurs homologues des organes de régulation. Et évidemment, ça pose une question.
Alors dans votre livre, on a beaucoup retenu, beaucoup parlé de cette phrase. En 2015, 150 cadres de Bercy mieux payés que le chef de l'État.
Oui, alors en soi, je ne sais pas si c'est mal. Mais la question, c'est qu'il a fallu, vraiment beaucoup batailler pour avoir cette note qui était classée confidentielle, un peu comme le code nucléaire. Et je révèle l'existence d'une autre note adressée cette fois à François Hollande, qui contient la liste des 600 hauts fonctionnaires les mieux payés de France. Note elle aussi classée secret et dont la ministre de la fonction publique de l'époque, Madame Gérardin, m'a dit elle-même qu'elle n'a pas eu le droit de la conserver. Alors que dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, cette liste-là est simplement publique.
Alors est-ce que c'est utile pour l'État, à votre avis, d'avoir de payer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie finalement, malgré tout, pour l'État, le fait d'avoir des consultants payés plus cher que les fonctionnaires ou que les membres, les ministres eux-mêmes?
Vous voulez dire des hauts fonctionnaires plus payés que les ministres? C'est pas à moi de le dire, mais simplement il faut que le débat soit public, tout simplement. Et on peut pas avoir de débat public si ces chiffres-là ne sont pas publics.
Vous pointez la question justement de la transparence, on parle d'argent public, on sait que l'argent public est pesé très, très précisément dans les budgets aujourd'hui. Il y a ces sommes d'argent qui sont assez phénoménales donc dans les salaires. Parlez-vous de problèmes de transparence et de contrôle de tout ça? Est-ce qu'il y a des plafonds qui ont été fixés, qui sont respectés?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de 450 000 euros pour les patrons, mais en dessous, il n'y a pas de plafond. Le cas type étant Florence Parly, qui a été numéro 3 ou 4, disons, de la SNCF, dont le patron voit son salaire bloqué à 450 000, mais elle gagnait 56 000 euros par mois.
C'est aussi lié aux allers-retours, j'imagine que les salaires dans la fonction publique s'alignent aussi vers le haut sur les salaires du privé?
Je ne suis pas sûr que les salaires du privé soient en réalité si élevés que ça pour ces gens-là. Ceux qui ont dû partir, ou qui devaient partir, sont déjà partis dans le privé.
Une dernière question.
Emmanuel Macron, vous le rappelez, dans son livre Révolution, pendant la campagne, dénonçait les hauts fonctionnaires qui se sont constitués en caste. Il disait il n'est plus possible qu'ils continuent à jouir des protections hors du temps. Ça ne mange pas de pain de le dire. En réalité, quelles sont les positions qu'il a prises, lui ou Nicole Belloubet, sur toutes ces questions de réforme de l'ENA, des grands corps de l'État, du pantouflage?
Il s'était opposé cet été à ce qu'on régule un peu plus le pantouflage. Là, une commission dirigée par un membre de La République En Marche semble être d'accord pour faire quelques avancées. Mais en ce qui concerne les grands corps, et donc ceux qui bénéficient de protection hors du temps, comme il dit, on a vu hier qu'il n'a pas décidé de les supprimer.
Merci. Merci beaucoup Vincent Jauvert. Je renvoie donc à votre livre Les Intouchables d'État chez Robert Laffont. Merci à vous Camille Magnard. Un temps plus froid, plus instable avec alternance d'éclaircies, de nuages accompagnés d'averses, des températures de 2 à 15 degrés. 17h, le magazine de la rédaction sur la Tunisie. Tunisie, tout ça pour ça, la jeunesse désorientée. Ce sont des reportages que vous pourrez entendre de Nadine Epstein, réalisés par Annie Bro, présentés par Antoine Marette, édition qui a été réalisée avec Julien Loquet. Prochain journal 18h avec Benoît Bouscarel.